Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, votre podcast dédié à l'actualité de la Coupe du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et c'est un numéro évidemment particulier puisque l'affiche de la finale est connue, Argentine-France. Dans ce Tour du Monde, vous saurez tout, absolument tout sur l'Albi Céleste grâce à Thomas Goubin, notre spécialiste du football sud-américain. Bah, salut Thomas, finale rêvée finalement.
Salut Cyril, oui tout à fait. Et pour les Argentins également, quoi, pour eux de rencontrer le champion du monde en titre, l'équipe de Mbappé, c'est évidemment la finale dont ils avaient envie.
Cette émission va s'articuler autour de quatre thèmes principaux. Le premier, ce sera la France, vue par l'Argentine, et notamment le cas Kylian Mbappé. Le deuxième, revenir sur la jeunesse de cette équipe argentine, arrivée en finale en 2022 après avoir frôlé une crise majeure en 2018. On évoquera évidemment le huitième de finale dont tout le monde se souvient, avec notamment cette frappe de bâtard de Benjamin Pavard. On parlera de Lionel Messi et on parlera et on terminera même sur les chants argentins et cette culture argentine du supporterisme. Vous en avez pris l'habitude, vous retrouvez Tour du Monde sur les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC, vous retrouverez également la Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis qui parleront des Bleus jusqu'à la finale et même après. Thomas, on va commencer ce Tour du Monde qui va être finalement un tour de l'Argentine. Et on va faire, si tu veux bien, un petit tour d'abord du côté de la presse argentine au lendemain de la qualification de l'équipe de France et donc de cette affiche Argentine-France. C'est quoi tout simplement la tonalité des médias argentins maintenant que les Bleus sont leur prochain adversaire? Est-ce qu'ils ont peur de cette équipe de France?
En tout cas, ils la craignent. C'est évident, il parle d'une équipe un peu étrange, une équipe qui ne domine pas forcément son sujet, mais qui est extrêmement efficace, et puis qui a des joueurs fleurés classe aux avant-postes. Donc, ils craignent ça de la part de l'équipe de France. Ensuite, on voit que la tonalité, déjà aujourd'hui, est un peu d'essayer d'instaurer un peu de polémique entre les deux pays, et notamment en rappelant des propos d'Mbappé un peu désobligeants envers le football sud-américain.
Ouais, on va y venir sur ces propos-là parce qu'au fond, c'est presque l'Amérique du Sud qui est contre Kylian Mbappé plus que l'Argentine. Je vais reprendre ce que tu disais sur l'équipe un peu bizarre. Je crois que c'est Clarine qui dit que c'est une équipe bizarre qui semble plus limitée qu'elle ne l'est vraiment, mais qui ne pardonne rien. Il n'y a pas une crainte de se dire aussi, malgré tout, cette équipe de France, elle est plus complète et en tout cas, elle a plus de talent que l'équipe d'Argentine, ou ça, c'est impossible à avouer pour la presse argentine?
Je pense qu'en début de compétition, ils pouvaient peut-être le penser. Ouais. Mais aujourd'hui, l'Argentine les a convaincus, tour après tour, finalement, qu'elle avait les armes pour neutraliser n'importe quel adversaire, y compris l'équipe de France.
Alors, tu l'as mentionné, ce match, c'est évidemment un duel, probablement pour un ballon d'or, entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il y a une phrase de Kylian Mbappé qui avait été prononcée il y a quelques mois au micro de TNT Sport au Brésil et qui, depuis, n'a cessé d'être ressortie par les médias sud-américains. Cette phrase, je vais vous la lire, c'est « L'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Et c'est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du Monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. » On l'a vu encore ce jeudi, on en parle sur Clarine, sur Olé. C'est quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre en Amérique latine à l'époque.
Ouais, ça a blessé l'orgueil du football latino-américain. En Argentine, on n'a pas du tout apprécié ces propos-là. Je pense que, de manière générale, de sentir que les Européens vous regardent un petit peu de haut, c'est quelque chose qui passe forcément mal. Après, le constat de Mbappé, personnellement, me paraissait un peu trop,
présomptueux.
Oui, un peu trop tranché en fait.
Ok.
Parce que ce qu'il disait n'était pas totalement faux non plus, puisqu'on a
Ouais.
vu que, par exemple, bah, le Brésil, finalement, même si les éliminatoires sud-américains peuvent être difficiles, survole ces éliminatoires, et puis en Coupe du Monde, à chaque fois qu'ils tombent sur un Européen, depuis quelques éditions, ça ne passe plus pour eux. Et c'est vrai que l'Argentine sortait aussi d'une Coupe du Monde compliquée en 2018, mais il faut aussi ne pas oublier qu'en 2014, ça joue à rien, quoi. Ils auraient pu être champions du monde si Higuain avait cadré sa frappe, simplement.
Sur le cas Kylian Mbappé, j'ai vu aussi ce jeudi qu'on était encore sur la tonalité du meilleur joueur du monde versus son successeur. C'est quelque chose qu'on pouvait peut-être entendre, nous, en tant que Français, en 2018. Il nous apparaît qu'en 2022, Kylian Mbappé a fait plus de choses pour être considéré plus qu'un successeur, entre guillemets. Ça, l'Argentine n'en démordra jamais jusqu'à la retraite de Lionel Messi. Tant que Messi jouera, le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi pour eux.
C'est fort possible, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il sort aussi d'un super début de saison.
Oui, tout à
Est-ce
fait.
qu'il y a un an, la tonalité aurait été la même? On ne sait pas. Mais là, Mbappé, il s'affronte à un mythe aussi. Il ne s'affronte pas seulement à un Argentin, il s'affronte à un mythe du football, voilà, qui est rayonnant à ses 35 ans. Donc forcément, en Argentine, on continue de le considérer comme le meilleur joueur du monde.
Et sur le cas Mbappé aussi, j'imagine, et on va en parler juste après, mais est-ce qu'il y a un traumatisme lié uniquement à la personne d'Mbappé, quant à ce huitième de finale 2018.
Il avait marqué les esprits,
Ouais.
clairement. Pour eux, enfin, ils ont vu, il a incarné en fait la différence entre ces deux équipes il y a 4 ans, notamment avec une Argentine qui n'était pas du, qui était équipe, qui n'était pas du tout dynamique, qui manquait de puissance physique.
Ouais.
Et là, en quelque sorte, Mbappé leur montrait en quelque sorte la voie pour le futur. Ce football est extrêmement rapide, avec beaucoup de changements de rythme.
Alors le futur, on y est, on est même dans le présent maintenant, puisque 4 ans après ce huitième de finale marquant à Kazan, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale et retrouvera donc l'équipe de France. J'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur la construction de cette albicéleste et comment elle a réussi à se relever de ça, parce que avant même le huitième de finale face à l'équipe de France, c'était presque un miracle que l'Argentine se qualifie en huitième dans cette Coupe du Monde 2018. Les Argentins avaient commencé par un nul face à l'Islande, ils avaient perdu face à la Croatie, ils s'en étaient sortis sur un éclair de génie face au Nigeria. Je suis retombé sur un de tes articles de l'époque, Thomas, tu nous expliquais que l'Argentine était à deux doigts de vivre son Aïsna. C'était vraiment ça la tonalité à l'époque?
Oui, il y avait énormément de conflits au sein de la sélection, notamment entre le sélectionneur Jorge Sampaoli, qui n'était arrivé en fait que quelques mois auparavant,
Ouais.
et puis les cadres, les Mascherano, les Messi, et ça se passait mal. Il y a eu clairement des petites, des engueulades, clairement,
Ouais.
entre le staff technique et les joueurs. Sur le terrain, ça ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, le match contre la France, ça a été un peu l'arbre qui cache la forêt. Malgré la défaite, ce 4-3, il s'en sortait plus ou moins honorablement.
Ouais. On se souvient d'une image de Sampaoli qui même demande à Messi en cours de match. Quel coaching faut faire? Donc, on a été à deux doigts de l'implosion pendant cette Coupe du Monde russe.
Ouais, on sentait que c'était une équipe en fait où il n'y avait pas de ligne directrice,
Ok.
avec un Sampaoli perdu. Et quand tu parles de cette scène, en fait, Messi n'a pas du tout apprécié ça. Que
D'accord.
Sampaoli lui demande quoi faire. En fait, Sampaoli avait mis Messi sur un piédestal, mais Messi ne se sentait pas du tout à l'aise dans cette position. Et d'ailleurs, quand Sampaoli lui demande quoi faire, il l'a regardé en lui disant, enfin, c'est ton boulot.
Ok. Il y a plus du tout ce mythe-là autour de Lionel Messi en 2022. En 2018, il y avait la sensation que c'était presque Mascherano et Messi qui faisaient le 11. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce que déjà Mascherano n'est plus là. Comment tu expliques qu'en 4 ans, cette équipe d'Argentine soit passée d'une potentielle crise très durable à une finale de Coupe du Monde?
Ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'il n'y a eu aucune révolution annoncée. Il n'y a pas eu vraiment eu de planification. Il faut se rappeler, quand Scaloni est nommé, il arrive comme intérimaire. Ensuite, il travaille quelques mois. On lui fait un contrat court jusqu'à la fin de la Copa América 2019. Mais en fait, petit à petit, Scaloni, eh ben, il va oser imposer ses idées, notamment la nécessité d'un rajeunissement de l'équipe, essayer d'avoir des milieux plus dynamiques. Et ça a aidé finalement à l'Argentine. À sentir, à à amorcer une nouvelle dynamique. Mais voilà, rien n'a été planifié. Et petit à petit, Scaloni a agencé ses pièces. Le groupe a commencé à très bien vivre. Il y avait une très bonne ambiance au sein du groupe. Et tout ça, ça a été couronné par le succès en Copa América, qui a finalement libéré cette sélection d'un poids, puisque ça faisait 28 ans qu'il n'avait pas remporté le moindre trophée.
Tu parlais de rajeunissement. C'est vrai que quand on a comparé les deux listes entre celle de 2018 et celle de 2022 pour l'Argentine, il n'y a que 7 joueurs qui étaient là en 2018 qui sont là en 2022. Ça prouve à quel point la sélection a été refaite de fond en comble par Scaloni. On a l'impression aussi qu'il y a moins de talent que par le passé, notamment devant. Alors, Julian Alvarez fait une super Coupe du Monde, mais on n'est pas exactement sur la même référence que Higuain ou que Agüero. Derrière, il y a moins de noms clinquants que celui de Mascherano. Même au milieu de terrain, il y a un petit peu moins de talent. Ça aussi, c'est Scaloni qui l'a voulu, c'est-à-dire de ne pas toujours prendre. Et c'est peut-être que le cas de Dybala, qui est finalement là, mais qui joue très peu, illustre bien, c'est-à-dire cette idée de... On fait tout pour Messi, on construit une équipe autour de Messi, et finalement, ce qu'on veut, c'est 10 guerriers et un génie.
C'est ça. Il veut des joueurs qui ont tous un grand esprit collectif,
ouais.
Qui se dépensent énormément, qui sont agressifs, qui compensent les montées des uns ou des autres. Et c'est ainsi qu'il a construit cette équipe très, très solidaire, finalement, où il bouge tout le temps ses pièces,
ouais.
Où finalement, les joueurs répondent tout le temps. Et le fait aussi qu'il y ait moins de joueurs, on va dire, de grandes figures mondiales dans
gradé,
cette équipe,
ouais.
Finalement, ça a aussi aidé, je pense, Scaloni à travailler calmement, parce qu'il y avait moins d'attentes après cette équipe. Après 2018, les gens étaient tout simplement écœurés par cette sélection. Et qu'on voyait ensuite les 11 alignés par Scaloni, clairement, ils étaient moins talentueux, donc moins d'attentes, donc plus de patience. Et finalement, ça a été bénéfique à cette équipe.
Dans toutes les réactions d'après-match, après la demi-finale, tous les joueurs qui se sont succédés au micro ont parlé de ce groupe argentin, du fait que cette équipe vivait très très bien, et c'est le cas depuis plusieurs mois, tu nous l'as dit. Même un Lionel Messi, qui était plutôt discret autour de comment se passaient les choses pour lui en Argentine, s'est ouvert auprès des médias en se faisant charrier notamment par De Paul sur le fait de mal servir le maté, etc. Tous ces petits épisodes qui sont malgré tout des indicateurs du bon vivre de ce groupe-là. Est-ce que peut-être Messi aussi, par le passé, par le fait d'être entouré d'autres grandes figures du football argentin, a pu être un peu laisser des responsabilités qu'en 2022, il assume complètement. Ça joue aussi pour Lionel Messi.
Ouais, je crois même d'ailleurs jusque 2018, alors qu'il n'était pas encore, il était plus tout jeune, il avait déjà passé la trentaine. On avait l'impression que c'était toujours le protégé de Mascherano, en quelque sorte, dans le groupe. Et aujourd'hui, lui, c'est devenu le leader, il assume. Il y a eu aussi une évolution personnelle.
Ouais, bien sûr.
Il y a quelqu'un qui s'ouvre quand même beaucoup plus, on le voit en interview. Bon, il dit rarement grand-chose,
oui.
On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise que par le passé. Et je crois que le staff aussi a aidé à créer ce sentiment, en fait, cet attachement au maillot argentin.
Ouais.
Ils ont réussi vraiment, les Aymar, les Samuel, donc ils font Walter Samuel, qui font partie du staff technique de Scaloni. C'est des gens qui ont eu un grand vécu en sélection et qui ont réussi à transmettre ce que doit faire et quelle doit être l'attitude d'un joueur de sélection.
On en parlait lors du dernier numéro sur la Diego Armando Maradonaisation de Lionel Messi. Alors, ça s'est moins vu sur cette demi-finale, mais malgré tout, son mondial est absolument dingue en termes de performance pure. Est-ce qu'en Argentine, la tonalité, c'est de dire que c'est le Lionel Messi ultime, celui qui... c'est peut-être la meilleure version du joueur qui brille depuis 15 ans sur nos terrains européens.
En tout cas, c'est la meilleure version avec l'Argentine.
Ouais,
c'est la meilleure version en Coupe du Monde.
Ouais.
Je crois qu'actuellement, personne non plus le compare à ses meilleures années barcelonaises. Et c'était pas le même joueur non plus aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est plus un joueur organisateur. Mais évidemment, ensuite, il y a des évidences. Les statistiques disent que c'est sa meilleure Coupe du Monde. Mm. Il n'a jamais rayonné autant avec l'Argentine. La comparaison se fait surtout avec son passé avec l'Argentine plutôt que son passé avec Barcelone.
Ouais.
Et là, clairement, il est décisif. Il a aussi, il y avait cette statistique qui pesait sur lui, de pas seulement de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde, mais pas de jamais avoir été décisif lors d'un
Ouais.
match à élimination directe. Et en fait, toutes ces barrières, bah, il a fini par les abattre les unes après les autres, à 35 ans. Voilà, ce qui est assez prodigieux.
Tu parlais de barrières abattues, on a et de matchs à élimination directe. Finalement, de l'extérieur, on a aussi le sentiment que le Mexique a agi comme un accélérateur de particules pour l'Argentine. Il y a eu cette défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite qui n'était pas prévue et qui a brisé la dynamique de match en défaite argentine. Il y a eu ces 70 premières minutes face au Mexique où on a presque retrouvé une Argentine similaire à celle de 2018 avec les jambes qui tremblent et une certaine, voilà, peut-être un sentiment de peur et de ne pas être à la hauteur de la dernière de Lionel Messi. Ça aussi, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, que le but de Lionel Messi face au Mexique et cette célébration face aux supporters a absolument tout lancé pour l'Argentine dans ce mondial.
Ouais, tout à fait, ça a libéré l'équipe. Voilà, dans ce mondial, il y a deux choses importantes. Il y a le facteur Messi, là on l'a vu contre le Mexique. Et puis après, il y a la force du collectif. Et
Ouais.
ça a été la deuxième période où Scaloni fait entrer Enzo Fernandez et Julian Alvarez, qui sont des joueurs qui ont à peine un an d'expérience en sélection nationale et qui s'imposent directement et qui vont intégrer le 11 et qui ont permis, voilà, qui ont été des éléments moteurs dans le parcours de l'Albicéleste.
Justement, tu parlais de ces deux-là, Alvarez, Fernandez. À quoi il faut s'attendre peut-être face à l'équipe de France pour cette finale? Parce que on l'a vu dans cette compétition, Scaloni s'est énormément adapté tactiquement. Il a utilisé trois schémas différents, le 4-3-3, le 3-5-2 et le 4-4-2 presque losange, ou en tout cas avec un Messi ultra libéré et un Julian Alvarez qui prend la profondeur. On sera potentiellement sur la même équipe que celle qui a joué la demi-finale avec un milieu renforcé pour limiter l'influence des Bleus ou... Il y a une chance peut-être de voir un, voilà, André Di Maria titulaire sur ce match. Est-ce qu'il y a déjà des indices qui fuitent en Argentine?
Non, on n'en est pas encore à ce stade-là.
Ok.
Donc Scaloni a toujours su bien cacher son jeu. Après, ce qu'on peut penser, est-ce qu'il misera sur le même milieu que contre la Croatie? Bon, c'est difficile à prédire. Après, il y aura clairement un plan anti Mbappé parce que la force à chaque fois de Scaloni, c'est de neutraliser les points forts adverses et
Ouais.
sur ses faiblesses. Donc clairement, Mbappé devra avoir un traitement spécial qui lui sera dédié. Après, sur le reste du 11, voilà, c'est difficile à prédire. Moi, personnellement, je serais étonné de voir un nouveau Paredes, par exemple.
Ouais.
Je pense qu'il cherchera à avoir peut-être davantage de dynamique au milieu de terrain.
Si Didier Deschamps nous écoute, on l'espère depuis Doha, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner pour... Alors, arrêter Messi, c'est impossible, on le sait. Il y a trop d'entraîneurs qui ont essayé et qui se sont trompés. Peut-être limiter au maximum l'influence de Lionel Messi. Ça passe par quoi? Ça passe par un travail notamment de Griezmann au milieu pour aller empêcher la première relance et empêcher de toucher Messi dans de bonnes dispositions. C'est ça la clé?
Oui, tout à fait. Bah, c'est couper voilà, les canaux qui mènent à Lionel Messi. Peut-être presser aussi les défenseurs argentins dès la relance.
Ouais.
Ce n'est peut-être pas les plus habiles quand même avec leurs pieds. Mais après, c'est quelque chose que fait rarement la France.
C'est vrai.
Donc
Ouais.
voilà, c'est pas forcément un registre dans lequel est à l'aise l'équipe de France.
On va avoir beaucoup d'affrontements un contre un. Donc, on a parlé de Kylian Mbappé. Le rôle de Griezmann sur Enzo Fernandez probablement sera très important. Tchouaméni dans la zone de Messi. Peut-être le duel aussi qui peut jouer, c'est Otamendi-Giroud. Est-ce que dans cette Coupe du Monde, l'Argentine a été, on l'a vu, notamment face aux Pays-Bas, à partir du moment où il y a eu des target men, comme on les appelle, c'est-à-dire des attaquants plutôt dominants dans les airs, l'Argentine ne gagnait plus beaucoup de duels sur des longs ballons. Et ça peut être aussi une des clés utilisables pour Didier Deschamps.
Ouais, bah, tout à fait. L'arrière-garde Argentine, elle est petite,
Ouais.
à part Romero, qui est le seul à pointer au-dessus d'un mètre 80. Donc c'est clairement un point sur lequel peut jouer Didier Deschamps. Voilà, en essayant de servir Olivier Giroud et également en servant son jeu en remise.
Ouais, complètement.
Donc ça, c'est quelque chose, ouais, En tout cas, on peut considérer que c'est un des points faibles de cette Argentine, peut-être même le seul vrai point faible.
On va terminer cette émission par évoquer ce qu'on entend que, tout simplement, dans cette Coupe du Monde, c'est les supporters argentins. Thomas, rappelle-nous peut-être, donc là on devrait, je crois qu'on va atteindre des sommets de chiffres, ils sont pas encore tout à fait officiels, donc je préfère ne pas vous les donner, mais on peut être sûr que le stade de Losail va être rempli à ras-bord d'Argentins. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, la relation, c'est même plus de la passion, c'est presque de la folie, entre les Argentins et leur équipe nationale?
Je dirais même que ça part de la relation au foot plus
Ouais,
généralement
ok.
des supporters argentins. L'Argentin, enfin, le football, c'est central dans la vie argentine, c'est vital, c'est viscéral. Donc ça concerne ses clubs, ça concerne Boca Juniors, ça concerne River Plate et ça concerne évidemment aussi la sélection. Ensuite, ces supporters, moi ce que je trouve assez intéressant toujours, c'est qu'on a l'impression qu'ils portent avec eux en fait toute l'histoire de la sélection.
Ouais.
Et ça, on voit ça notamment dans leur chant. Ils font toujours des références aux grands moments vécus par la sélection.
Y a justement le chant. Alors, on sait que l'équipe de France a choisi Freed from Desire comme chant officieux dans cette Coupe du Monde. Celui des Argentins, il s'appelle Muchachos. Et vous voyez les paroles qui apparaissent à l'écran. Si vous nous écoutez en podcast, je vais vous lire tout ça. Je suis né en Argentine, terre de Diego et de Lionel, terre des soldats des Malvines que je n'oublierai jamais. Je ne peux pas te l'expliquer car tu ne pourrais pas comprendre toutes les finales qu'on a perdues, toutes ces années où je les ai pleurées. Mais tout s'est terminé parce qu'au Maracana, la finale contre les Brésiliens, c'est papa qui l'a à nouveau gagné. Les gars, maintenant on recommence à rêver. Je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde. En plus, on peut voir Diego dans le ciel avec Don Diego et sa Tota, qui est sa maman, qui encourage Lionel. Tu parlais de références, là elles sont claires et nettes. C'est des mots-clés dans la culture argentine. Malvin, Diego, la souffrance aussi. C'est pour ça que cette chanson a autant d'écho en Argentine, c'est qu'elle rassemble et elle convoque tous ces souvenirs-là.
Tout à fait, ça rassemble tout ce qui fait finalement la caractéristique des chants argentins. On se réfère encore aujourd'hui aux Malouines, c'était il y a exactement 40 ans.
Ouais.
L'Argentin, dans son chant, pas trop souvent aussi évoqué l'adversaire.
Ouais.
Et là, pour le coup, il rappelle la dernière victoire de l'Argentine contre le Brésil à la Copa América. Ils en tirent une sorte de sentiment de supériorité en disant qu'ils sont le papa
Ouais.
du Brésil. Et ce faisant, évidemment, leur mémoire est très sélective, puisque évidemment, l'Argentine a gagné plusieurs fois contre le Brésil. Mais au final, bon, le Brésil, c'est quand même une équipe qui a gagné 5 Coupes du Monde.
Tu parlais du Brésil, il y a aussi une chanson qui en 2014 avait traversé les frontières, Brésil décimé que se siente. Bon, là aussi, il y a une histoire de papa, il y a une histoire de Diego qui dribble tout le monde, Cani qui vous a vacciné, Maradona est plus grand que Pelé. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces chansons arrivent à pénétrer autant la culture populaire. C'est aussi parce que aujourd'hui, tu l'as dit, le foot, c'est même plus une place centrale. C'est quasiment tout le monde ne parle que de ça en Argentine aussi parce que ça permet d'oublier tout ce qui se passe par ailleurs, peut-être.
Ouais. On dit même qu'il y a une expression qui dit que l'Argentine est une société footballisée.
Ok.
Et c'est exactement ça. On parle beaucoup de ça. Donc, évidemment, tout ce qui tourne autour du football va rapidement prendre une grande ampleur. Donc, le chant Brasil Décimé Que Se Siente, voilà, c'est une bande de jeunes argentins qui ont commencé à l'écrire, qui ont commencé à l'interpréter. Et puis, il y a eu un relais médiatique et les réseaux sociaux. Voilà, ça crée un effet boule de neige et finalement, c'est devenu très très rapidement, quoi. C'est en l'espace de quelques jours, quelques semaines, le tube de la sélection chanté par les supporters comme cette année avec le chant Muchachos.
Est-ce qu'il y a aussi dans ces chants peut-être une volonté de déstabiliser un peu l'adversaire? Tu nous as dit, tu nous as parlé, voilà, l'humilier presque parfois. Est-ce que dans le stade, on sait que c'est un public très sanguin, les Bleus doivent s'attendre à jouer à l'extérieur, ça c'est évident, mais aussi peut-être à être un peu déstabilisés, à entendre des chants un peu moins glorieux, un peu moins entendables aussi. C'est quelque chose qui fait partie de la culture Inchas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. L'outrance fait partie de la culture des Inchas. Donc voilà, je ne sais pas s'ils nous réservent des surprises
Ouais.
peut-être contre l'équipe de France, mais clairement, quoi, les Bleus peuvent s'attendre à une grosse, grosse pression mise par la sélection, mise par les supporters, pardon. Et voilà, on peut même imaginer que d'ici dimanche, il y a un nouvel hymne qui va surgir.
Ah oui, donc ce sera pas Muchachos, tu penses?
Ça reste l'hymne principal,
Ok.
mais c'est vrai que comme tu le dis, quoi, peut-être qu'ils vont chercher à se référer aussi à l'équipe de France, voilà, qui fait pas partie de leur grande histoire, quoi. Leurs grands rivaux historiques européens, c'est plutôt voilà, les Pays-Bas, l'Angleterre ou l'Allemagne.
Dernière question avant de te libérer, Thomas. Est-ce que toute l'Amérique latine soutient l'Argentine?
Pas du tout.
D'accord.
Voilà, une réponse assez claire. L'Argentin n'a pas vraiment bonne presse en fait en toute l'Amérique latine parce
Ouais.
qu'on les considère souvent comme arrogants en règle générale et également notre football. Il y a beaucoup de pays qui ont du mal avec l'agressivité du joueur argentin.
OK.
Voilà, c'est un peu une affaire d'idiosyncrasie, de culture nationale. Et au contraire, je crois qu'hier, par exemple, l'Amérique latine devait être derrière le petit, quoi. Derrière le
D'accord, plutôt
Maroc,
le
par exemple,
Maroc.
contre la
OK.
France. Voilà, les pays qui ont été historiquement dominés, au-delà du football. Mais avec l'Argentine, voilà, ils n'ont pas cette vision de l'Argentin comme du petit pays. Ils ont plutôt justement cette vision de l'Argentin arrogant et l'Argentin qui se pense meilleur que ses voisins.
Est-ce que la figure de Messi peut peut-être adoucir un peu ça? J'ai vu un tweet notamment de Rivaldo après la qualification de l'Argentine où il disait, bon bah on a perdu Neymar, on n'aura pas notre nouvelle étoile, mais pour cette finale, je serai derrière Messi plus que derrière l'Argentine. D'ailleurs, tu as raison. J'imagine que le fait que ce soit la dernière de Messi peut conquérir malgré tout des cœurs au-delà des frontières argentines.
Ouais, tu fais bien de le dire. C'est vrai que la présence de Messi fait que certains oublient parfois leurs sentiments anti-argentins et vont être derrière cette équipe. Que ce soit voilà, les Brésiliens, Rivaldo a dit ça. Et moi, je vois ça. Voilà, j'ai vécu quelques années au Mexique, donc j'ai gardé des connexions là-bas, où l'Argentin en général n'a pas très bonne presse. Mais il y a les fans de Messi, voilà,
Ouais.
qui veulent le voir soulever la Coupe du Monde.
Voilà, vous savez tout sur l'Argentine de A à Z, comme promis grâce à Thomas. Merci beaucoup Thomas pour ton apport pendant tous ces tours du monde. C'était la dernière de Tour du Monde. Je vous laisse entre les mains du FC Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis qui évoqueront en long, en large et en travers la finale qui s'annonce dimanche. On se retrouve début janvier, avec Tour d'Europe, nos consultants habituels pour refaire le tour des 5 grands championnats européens. D'ici là, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien et bonne finale à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.